France Info.
Michel Sapin, le ministre de l'économie, avait misé sur une croissance de 1,5 pour 2016. Finalement, ce sera 0,2. Bon, décevant, en fait, pas vraiment, parce que si on invoque l'indicatif Jean-François Copé et ses pains au chocolat à 15 centimes, 0,2% de croissance, c'est très bien, c'est même mieux que 1,5. Mais restons réalistes, en fait, le chiffre est décevant. François Hollande l'a reconnu lui-même, une croissance donc décevante qui s'ajoute à cette enquête Odoxa France Info montrant que même si la courbe du chômage s'inversait, 77% des personnes interrogées n'auraient pas une meilleure opinion de François Hollande. Pas de bol, pourrait dire le locataire de l'Élysée, mais là n'est pas le souci, François Hollande.
Ce que nous avons à gérer, ce n'est plus une crise économique, c'est un défi bien plus grand. Nous avons, de ce point de vue, pris des mesures qui ont permis de redresser les comptes du pays et de retrouver un sentier de croissance, même si elle est encore trop faible. Mais ce n'est pas simplement avec la croissance que nous pourrons retrouver la cohésion. Elle est nécessaire. La cohésion, c'est être capable de réunir le pays tout entier, dans toute sa diversité, sur un projet commun.
Voilà, le président de la République ce matin au Conseil économique et social. Alors celui qui est on l'a vu là dans cette petit extrait de discours, tout de suite François Hollande parle de cohésion nationale, d'entente nationale, c'est parce que ça évite comme ça de parler véritablement du vrai sujet.
Bah, de toute façon, il voit bien que ça fonctionne pas. Là, on a l'impression qu'on est dans le concours du meilleur épicier de France. C'est-à-dire qu'on donne des chiffres, on sait plus trop ce que ça veut dire parce qu'ils ont été instrumentalisés de façon politicienne depuis le début du quinquennat. C'est ça qui rend la lecture très difficile, hein, de ce qui est en train de se passer. Il y a une embellie sur le front de l'emploi, mais les Français, le sondage le montre très bien, n'y croient pas puisque c'est indexé sur un calcul politicien qui date du début du quinquennat. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que François Hollande a construit depuis le début du quinquennat son propre empêchement. Alors ça se voit à travers le livre de Davé et l'Homme, on voit, c'était décidé bien avant 2012. On le voit aussi à travers cette promesse d'inversion de la courbe du chômage qui arrive très très tôt dans le quinquennat et qui maintenant lui revient comme un boomerang dans la figure. Donc ce qui est assez terrible, c'est qu'il est empêché aujourd'hui en grande partie par lui-même.
Alors Mathieu Alterman, c'est vrai qu'on a, c'est terrible parce qu'avec François Hollande, on a toujours l'impression depuis le début du quinquennat qu'une mauvaise nouvelle succède à une bonne nouvelle. On l'a vu, chiffre du chômage plutôt bon, et là d'un coup, hop, une croissance ce trimestre-là qui n'est pas terrible.
Bah, c'est-à-dire que la seule chose qui manque sur le document qu'on a vu, c'est les rires enregistrés finalement, parce que ça, on est quand même un petit peu là-dedans. Non, il y a un truc, j'ai l'impression que François Hollande aimerait avoir raison contre tout le monde. En fait, c'est ça. Sauf que depuis le début, on sait que ça ne peut pas marcher, il ne peut pas y avoir de croissance puisqu'ils n'ont pas pris les mesures qu'il fallait. On n'a jamais eu accès autant à notre époque aux informations économique sur tous les autres pays, on sait ce qu'il faut faire. Globalement, on sait ce qu'il faut faire pour que ça marche. Puisque nos voisins, ce n'est pas des extraterrestres. Hein. Et on ne fait pas. Donc ça ne peut pas marcher. Et ça ne marche pas, le chiffre le montre. Donc voilà.
Mais alors, justement, nos voisins, Eric Scholz, ça marche chez eux ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment de la croissance, plus de croissance, comme nous, on souhaiterait l'avoir?
Je vais prendre un voisin un peu lointain, mais prenez les États-Unis. On a le chiffre de croissance au troisième trimestre, donc le trimestre correspondant, 2,9%. Nous, on est à 0,2. Ça vous montre quand même l'écart monstrueux.
Bon, et nos voisins les plus proches, voilà.
Nos voisins les plus proches, il y a, depuis le début de l'année, il y a quand même une reprise en Europe, dans la zone euro, assez forte, avec beaucoup d'inquiétudes quand même, hein, parce qu'on sait que cette reprise, elle a été aidée par des facteurs extérieurs. On sait aussi qu'en France, et ça c'est vrai qu'il y a eu des difficultés, il y a eu les attentats qui ont beaucoup pesé sur l'activité économique, il y a eu sur les produits agricoles, des mauvaises récoltes, etc. Donc il y a des données factuel qui explique ce mauvais chiffre sur le troisième trimestre. Maintenant, de manière plus générale, on est quand même à la traîne quand on regarde l'Allemagne, quand on regarde même l'Angleterre. L'Angleterre, là, est en train de bénéficier d'une certaine façon de l'effet Brexit. Pourquoi? Parce qu'en fait, la livre a plongé.
Alors, on pensait que ça allait s'ouvrir.
Pour le moment, il va y avoir un effet sur la croissance à moyen terme, mais immédiatement, on a vu que la livre plongeait, et la livre, en plongeant, la livre fait repartir les exportations britanniques, et ils en profitent un petit peu. De manière générale, à l'extérieur, on s'en sort plutôt mieux. Nous, c'est très, c'est flat. C'est tout plat depuis un petit moment.
C'est compliqué. Juan Branco, alors c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'on a l'impression que depuis le début du quinquennat, il y a énormément dégagé pour relancer la croissance. On fait des plans dans tous les sens et au final, on n'a pas grand-chose.
Il y a un problème d'application du CICE, mais ça a été discuté quand même beaucoup dans les milieux économiques. C'est-à-dire que donc ce plan qui était censé permettre de la reconstitution des marges des entreprises qui avait été demandé par le patronat a été mise en œuvre avec des dizaines de milliards d'euros qui ont été dépensés sans contrepartie réelle et d'une façon qui en fait favorisait les entreprises, par exemple, de la grande distribution.
Ouais.
Donc parce qu'il était indexé sur les salaires, sur la masse salariale, mais d'une façon qui faisait qu'en fait on a favorisé les entreprises qui étaient obligées d'employer et qui n'allaient pas créer plus d'emplois à travers ça. Et donc il y a une reconstitution des marges qui a servi à l'exportation. On voit que les chiffres permettent à l'exportation de monter, au chiffre d'exportation de monter, mais par contre en termes d'emploi, ça ne fonctionne pas.
Oui, Mathieu Alterman, vous voyez,
c'est les PME qui emploient. Bon, ouais. Les PME, elles sont là, elles en peuvent plus, elles ont pas, voilà, donc ça peut pas fonctionner. Mais je sais pas, j'ai l'impression que la France est le dernier de la classe et que le dernier de la classe est en train de nous dire qu'il a raison. Voilà, que finalement c'est ça.
Alors on n'est pas totalement même... dernier de la classe quand même.
Non, mais on n'est pas dans les premiers au niveau européen.
C'est vrai.
Clairement, on est 22e sur le chômage. Hein. 22e.
On va continuer à en parler dans un instant car l'info à 20h10, c'est Pierrick Bonneau.
Et voilà qui tombe très mal pour la candidate démocrate. À 10 jours de l'élection présidentielle américaine, le FBI rouvre l'affaire des emails d'Hillary Clinton. L'ancienne chef de la diplomatie américaine est soupçonnée d'avoir utilisé son adresse mail personnelle pour avoir envoyé des informations classifiées lorsqu'elle était en poste. L'enquête avait été classée sans suite en juillet. Son rival républicain a aussitôt réagi. Donald Trump considère que le FBI peut ainsi corriger une terrible erreur. Un père de famille en garde à vue ce soir à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Après la mort de son bébé de 2 mois, la mère a appelé la gendarmerie la nuit dernière. Après avoir découvert son enfant inanimé, selon le parquet, le bébé a été victime de violence. Une autopsie va préciser si le père a frappé son enfant ou si le nourrisson a été victime du syndrome du bébé secoué. L'une des 9 personnes interpellées après l'enlèvement de Jacqueline Vérac a été mise hors de cause et relâchée. Information de nos confrères de France Bleu Azur. Les 8 autres gardes à vue ont été prolongées jusqu'à dimanche. L'ancien gérant d'un restaurant niçois, dont la riche septuagénaire et propriétaire, est toujours soupçonné d'être l'organisateur du rapt. La coalition internationale engagée contre Daesh en Irak annonce ce soir une pause de 2 jours dans l'offensive des forces irakiennes sur Mossoul. Objectif, selon le porte-parole de la coalition, consolider l'avancée des troupes pendant les 12 premiers jours de l'opération. Les Nations Unies ont dénoncé ce midi un massacre par les djihadistes de plus de 250 personnes, civiles et militaires, exécutées par balles cette semaine à Mossoul.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Il fait de plus en plus froid dans ce studio, mais on va essayer de réchauffer un peu l'ambiance. On parle de cette étude, donc, Odoxa France Info, montrant que même si la courbe du chômage s'inversait, 77% des personnes interrogées n'auraient pas une meilleure opinion de François Hollande. Choisi qui est on a vu toute cette semaine que c'est un peu compliqué pour François Hollande. On voit Manuel Valls qui est un petit peu à la manœuvre également. Est-ce que finalement, si François Hollande annonçait aujourd'hui sa candidature, ça calmerait pas tout le monde?
Le problème, c'est que c'est tout ce qui lui reste. Il lui reste le verbe, donc il s'en sert, il fait des discours. Il a encore fait un discours pour le centenaire de la naissance de François Mitterrand, donc c'était mercredi. Et puis il a l'horloge, c'est tout ce qui lui reste. Donc si on lui enlève l'horloge tout de suite, aussitôt, la guerre commence. Donc là, sa possibilité, c'est de rester retranché à l'Élysée. Il voit bien, il dit, on est sur un sentier de la croissance, on est plutôt sur un sentier de la guerre à gauche. On voit Manuel Valls s'avance chaque jour davantage. Ce qui embête pourtant Manuel Valls, c'est les sondages, parce que les sondages sont pas bons. Il est pas le candidat évident de substitution. Là, pour l'instant, celui qui les embête, c'est Jean-Luc Mélenchon, même s'il profite largement de l'affaiblissement du chef de l'État. Donc, on est dans une situation qui est pas idéale non plus du tout pour Manuel Valls. Donc, là, pour l'instant, François Hollande a tout à fait raison d'attendre, c'est tout ce qui lui reste.
Alors, Éric Scholl, on sait que François Hollande est à la peau dure, il y a eu des coups de tabac dans ce quinquennat, il y a eu des mauvais sondages, et pourtant, là, on a l'impression que depuis la publication du livre des 2 journalistes du Monde, Davé et L'Homme, un président ne devrait pas dire ça. On a vraiment l'impression que là, les socialistes ont pris un coup véritablement derrière la nuque quand même.
Les socialistes, oui. Lui, il n'est pas vraiment sur un sentier de la gloire, pour filer la métaphore des sentiers. Non, en ce moment, alors c'est exactement ça. Il va attendre en espérant que cette vague, cette très mauvaise vague, cette passe. C'est-à-dire ce qui est en train de ce qu'on voit se dérouler depuis maintenant une dizaine de jours au sein du Parti socialiste, cette tentative de se dire finalement, il n'est pas le candidat naturel, il y aura d'autres candidats, et donc tout ça va peut-être se tasser un petit peu et il va peut-être réapparaître. Il pouvait espérer avec les chiffres du chômage, et effectivement, paf, voilà, il y a les chiffres de croissance qui arrivent. Alors, ils ont beau dire, c'est un chiffre qui est correct. Non, c'est pas un très bon chiffre. Et on sera pas du tout 1,5. 1,5% annoncé pour cette année. Et du coup, on peut quand même se poser aussi des questions. Est-ce que ce 1,5%, il est quand même, c'est ce qui permet quand même derrière de réduire notre déficit, d'assurer nos engagements
oui,
auprès de Bruxelles,
donné au
etc.
Hasard,
non, c'est un chiffre minimum pour assurer nos engagements auprès de Bruxelles. Mmh. On n'y sera sans doute pas.
Mathieu Alterman.
Oui, c'est au-delà des chiffres, je pense. De toute façon, il n'y a plus de confiance. Donc, quel que soit le chiffre, ça ne fonctionnera pas. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que je suis convaincu que le jour où il va se déclarer candidat, il va remonter dans les sondages parce que les Français seront contents de savoir qu'il va perdre. En fait, c'est ça.
Je suis sûr de ça.
Le masochisme.
Non, parce que les Français attendent qu'une chose, c'est qu'il perde l'élection.
Ah d'accord, très bien.
Et voilà.
Rodemanco, vous pensez des Français aussi pervers que ça?
Moi, je pense qu'il y a un effondrement du système politique qui est assez clair en France et ailleurs. Alors, en France, on tient parce qu'on a un système beaucoup plus autoritaire que dans d'autres pays, qui est extrêmement verticalisé avec la Ve République. Mais là, on est vraiment face à un drame, en fait. Et cette sorte de lutte pour la survie de tous ces hommes politiques, que ce soit Manuel Valls, Emmanuel Macron, François Hollande, qui se tirent dans les pattes pour essayer de tenter d'assurer la presse sans avoir aucune proposition. C'est quand même plusieurs mois qu'on est dans cette discussion et on n'a pas encore des propositions tangibles pour changer le système. Mmh. Il y a un moment, en fait, où ça va s'effondrer d'une façon ou d'une autre, et évidemment, Le Pen va en profiter. Alors, peut-être qu'on aura Juppé qui va nous permettre pendant 5 ans de tenir le coup, mais enfin, à gauche, de toute façon, tout le monde sait très bien que c'est plié, et que, à limite, la question maintenant, c'est la recomposition de la gauche.
Après l'élection présidentielle. Alors, justement, la droite, on va filer de l'autre côté hein, de l'échiquier politique pour parler de la droite, et on peut voir en ce moment que chacun, d'ailleurs, a ses préoccupations. Par exemple, celle de Nicolas Dupont-Aignan. Eh bien, aujourd'hui, c'était d'aller faire un tour au Paris Games Week, hein, le salon du jeu vidéo. Peut-être y testera-t-il la réalité virtuelle. D'ailleurs, c'est le seul moyen pour lui hein, d'être président de la République. Au Front National, Tata Marine a interdit à sa nièce d'aller à l'émission politique sur France 2. Alain Juppé, lui, tente de rivaliser avec le rappeur Jul. Donc, c'est une campagne vraiment trépidante. Quant à Nicolas Sarkozy, bon, bah, alors là, il s'empêtre dans le nini de nouveau. Et oui, on est reparti. Hein. Il faudra un jour, d'ailleurs, que les politologues se penchent sur cette expression nini ou trouver un autre hein, concernant la posture à adopter face au Front National. C'est le nini de Titi, en fait. Ça fait un peu ça. Hein, ça fait pas trop. En annonçant qu'en cas de second tour, Hollande Le Pen, Nicolas Sarkozy voterait pour François Hollande, l'ex-président de la République divise ses militants, comme vous allez l'entendre hier à Marseille, d'ailleurs, où Nicolas Sarkozy était en meeting.
Moi, c'est très clair, entre la gauche et le Front National, c'est le Front National. Ce sont ceux qui sont plus vrais après Nicolas Sarkozy. Ils sont plus directs. La gauche ne me parlait plus de la gauche. Je suis déçu totalement.
Il se pourrait fortement qu'entre la peste et le choléra, on fasse un choix. Donc, laissons peut-être une chance au Front National de nous montrer de quoi ils sont capables.
Donc, parole de militant hier au meeting de Nicolas Sarkozy. Alors là, ce sont deux militants, mais c'est un sentiment qu'on entend quand même sur les caméras. Là,
oui, mais c'est
plus répandu qu'on ne le pense.
Oui, mais c'est le principe du dentifrice. C'est-à-dire qu'il a ouvert hein, le tube de dentifrice. Ça a commencé bien avant, évidemment, cette campagne pour la primaire de la droite. Mais là, on a l'impression qu'effectivement, il est au volant d'un car qui va dans le précipice et puis lui il saute et puis il laisse les autres foncer. Donc il s'est retrouvé dans une situation très particulière, Nicolas Sarkozy, c'est qu'il a fait le calcul finalement d'une primaire fermée. Il s'est dit, je suis le chef des Républicains, ça va être ma primaire à moi, je vais m'installer et puis Alain Juppé il va essayer et puis il n'y arrivera pas. Et là en fait qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un engouement pour cette primaire qui n'est pas dans la culture de la droite. Alors sur le papier, après on ne sait pas, on verra bien qui ira voter, mais en tout cas sa primaire le dépasse et elle le dépasse parce que les sondeurs repèrent pour l'instant des candidat de gauche, parce que les centristes se mettent tous en ordre de bataille derrière Alain Juppé. Et donc, Nicolas Sarkozy se trouve acculé. Et ce qui est très bizarre, d'ailleurs, dans ce qu'il fait, ce qu'il dit chez Bourdin,
Jean-Jacques Bourdin.
Je ne dis pas Jean-Jacques, mais Bourdin. Mais dans ce qu'il dit, c'est qu'il se coupe, de ceux du FN, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'électeurs qui avaient voté Nicolas Sarkozy en 2007, qui sont ensuite passés au FN, et qui, là, pourraient éventuellement venir à la primaire. Et c'est d'ailleurs à eux qu'il veut parler. Et là, il se coupe de. Donc là, il fait un nini, mais c'est ni les électeurs qui viennent du FN, ni les électeurs centristes. Donc c'est finalement, il se retrouve un peu tout seul.
C'est
au
ça,
milieu.
Oui. Alors, Éric Scholl, on se souvient au dernier régional, Nicolas Sarkozy, en tant que patron hein, des Républicains, avait fait adopter ce nini, ni PS, ni FN au second tour. Pourquoi il a changé d'avis, à votre avis? Il essaie de le grappiller quelques voix?
Alors, plusieurs choses. D'abord. C'est vrai, on a l'impression d'un changement d'avis. Simplement, c'est quand même pas la même chose, une élection régionale et une élection présidentielle. Donc jusqu'à présent, on ne s'était jamais prononcé encore sur une élection présidentielle. Là, c'est fait. Ça correspond. On a quand même le sentiment qu'effectivement, et là, Chazik a parfaitement raison, ça correspond à un sentiment de panique, parce que la stratégie adoptée n'a pas été la bonne, et sans doute aussi parce que, finalement, ces primaires ont l'air de bien fonctionner, et personne ne s'y attendait vraiment. Et en ce sens-là, d'ailleurs, moi, je ne pense pas du tout, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, que le système politique français est en train de prendre l'eau complètement. Il y a un problème qui n'est d'ailleurs pas que français, c'est la gauche du gouvernement. On le retrouve ailleurs en Europe, qui en ce moment a des problèmes parce qu'elle est largement concurrencée par des autres mouvements. En France, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la droite organise ses primaires et finalement, ça se passe pas si mal. Mmh. C'est d'ailleurs bien le problème d'ailleurs de Nicolas Sarkozy, qui avait sans doute cru qu'effectivement tout allait se faire uniquement avec son cœur des républicains. Et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, panique à moins de 3 semaines. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit changer de stratégie? Ça donne un peu ce sentiment-là quand même
de flottement.
Est-ce qu'on change de stratégie au dernier moment pour peut-être se recentrer un tout petit peu?
Mathieu Alterman.
Moi, je crois qu'on exagère tout ça parce qu'il parle quand même d'un cas de figure qui relève de la science-fiction. Il n'y aura pas François Hollande face à Sarkozy au deuxième.
Mais justement, il est suffisamment roué, il est suffisamment doué, il est suffisamment politicien. Moi, quand je l'ai écouté en direct, et je me suis dit, mais il faut répondre que ça n'arrivera pas. Et c'est ce qu'a répondu Alain Juppé, c'est
il
évident.
Il sait que ça n'arrivera pas, il attend qu'une chose, c'est qu'on pose la question à François Hollande, est-ce qu'entre Sarkozy et Le Pen, est-ce qu'il vote Sarkozy?
Mais il y a répondu. Dans le livre de David et l'Homme, François Hollande y répond et il dit qu'il votera Sarkozy.
Il votera Sarkozy, et d'ailleurs François Fillon a répondu aussi, donc parce que maintenant ça devient aussi une sorte de gimmick à poser ce matin.
Nous sommes en mai 2017.
Ce matin, Noël Mamère, hein, quand même, sur France Info, avait dit que lui, il ne sait pas pour qui il voterait et surtout, il s'abstiendrait en cas de Sarkozy-Le Pen au second tour. Allez, l'info, 20h20, c'est Pierrick Bonneau.
Manuel Valls hausse le ton et il le fait dans le journal Le Monde, daté de demain. Le Premier ministre évoque sa colère personnelle et une honte ressentie, selon lui, par les militants socialistes à la lecture du livre Confession de François Hollande. Manuel Valls qui ajoute cette phrase que beaucoup interpréteront comme un pas de plus vers 2017. J'ai le sentiment d'avoir une véritable responsabilité pour qu'on sorte le mieux possible de cette période très périlleuse. Fin de citation. Pour le candidat républicain Donald Trump, le FBI a l'occasion de corriger une terrible erreur. À 10 jours de l'élection présidentielle américaine, la police fédérale rouvre l'affaire des emails d'Hillary Clinton. L'ancienne chef de la diplomatie américaine est soupçonnée d'avoir utilisé son adresse mail personnelle pour avoir envoyé des informations classifiées lorsqu'elle était en poste. L'enquête avait été classée sans suite en juillet. L'accident aurait très certainement provoqué une grave crise diplomatique. Un avion de combat russe est passé tout près d'un appareil militaire américain dans l'est de la Syrie. Selon des responsables du Pentagone, c'était le 17 octobre, mais on ne l'apprend que ce soir. Entre les avions de la coalition, ceux de la Russie et du régime de Bachar al-Assad, le ciel syrien est très encombré. La coalition internationale et la Russie ont pourtant mis en place une ligne de communication pour discuter de la localisation approximative de leurs appareils respectifs. Et puis au sol, les rebelles lancent la contre-offensive à Alep, objectif briser le siège des quartiers est de la ville, imposé par l'armée syrienne et ses alliés. Plus de 15 civils auraient été tués ces dernières heures par les tirs des rebelles sur les quartiers ouest d'Alep, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Sozy Kemener de Marianne Éric Scholl de Courrier International, Mathieu Alterman de la revue Schnock et également le chercheur en droit international Juan Branco. Nous sommes en train de parler du Nini, nous sommes bien en 2016 hein, et non pas en 1995, ni en 1998 hein, ni en 2002, mais bien en 2016 puisque Nicolas Sarkozy l'a évoqué hier, également François Fillon, bref tout le monde aujourd'hui doit donner son avis dessus. C'est quand même assez étonnant, Juan Branco, c'est que si on en parle aujourd'hui, c'est parce que, quelle que soit l'étude d'opinion aujourd'hui, Marine Le Pen est au second tour.
Oui, c'est une question qui se pose. C'est-à-dire qu'on a joué aux digues et pendant des années, on a prétendu qu'il fallait lutter contre le FN en appliquant des politiques qui, sinon, si elles n'appliquaient pas les préconisations du FN, du moins en suivaient les priorités. Le FN fixe l'agenda politique depuis plusieurs années.
C'est ça, c'est
et la gauche de gouvernement, que ce soit la droite de gouvernement d'abord avec Nicolas Sarkozy, puis ensuite la gauche de gouvernement depuis François Hollande, suit cette ligne, en fait, et s'applique à répondre à toutes les problématiques posées par le FN. Sauf que ces problématiques, justement, sont évidemment orientées. Et le simple fait que de tenter d'apporter une réponse systématiquement aux questions posées par le FN, fait qu'on se retrouve coincé dans un jeu où, évidemment, le FN est gagnant au final.
C'est ça. Alors, Sozy Kemener, il y a une question qu'on peut se poser. C'est vrai que vous suivez donc la politique pour Marianne. On a beaucoup parlé des électeurs de gauche qui pourraient voter à la primaire, mais est-ce que les électeurs FN vont aller voter?
les sondeurs annoncent 10%, mais pour l'instant, on ne les a pas vus, ces 10%, 10 à 13% selon les sondages.
Parce que l'état-major dit qu'il ne faut pas les voter. Voilà, la consigne de l'état-major du FN, c'est ça. Hein.
Oui, mais après, là, on est en train de parler de personnes qui ne sont pas obligatoires, mais qui ne sont pas encartées, qui vont peut-être avoir envie de se dire il se passe quelque chose à droite, on a envie de participer. C'est d'ailleurs toute la question de savoir si le peuple de droite est capable de sortir autrement que ce qu'on a vu lors des manifs pour tous. Ouais. Là, on a vu qu'il y avait une certaine forme de droite qui était dans la rue, pas toute la droite. Là, c'est la question, est-ce qu'il y a une fierté, en fait, de droite, une fierté à aller voter de droite, parce qu'on se souvient, ça avait été un engouement très fort pour la primaire de gauche, et donc, la question, c'est de savoir si on va avoir la même chose en face. Mais c'était très intéressant ce que vous disiez sur le FN, et c'est vrai que finalement ça a arrangé tout le monde que de se dire que Marine Le Pen était au second tour, parce que finalement il suffisait pour François Hollande et pour Nicolas Sarkozy de dire je serai un des deux. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est en train d'exploser avec l'empêchement de François Hollande, avec la chute en tout cas dans les sondages de Nicolas Sarkozy. Donc il y a une nouvelle situation politique qui se met en route, et ça, je trouve ça intéressant.
Mathieu Alterman, quand on voit, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Jean-Frédéric Poisson, ses différents dérapages, etc., mais lui, ce qu'il souhaite, c'est justement l'alliance de toutes les droites. Est-ce que vous pensez que c'est un cas isolé?
Non, c'est pas un cas isolé. Je pense que vraisemblablement la droite va passer aux élections présidentielles, mais qu'elle a tendance à imploser prochainement, parce qu'il y a quand même une partie des gens de droite qui sont anti-européens, pas spécialement libéraux d'ailleurs. Il n'y a pas que des libéraux à droite. Et qu'à un moment, les gens qui sont à la fois anti-européens et anti-libéral vont se réunir tous, qu'ils soient de gauche ou de droite, de toute façon.
Ouais. Eric Scholl, pour vous, aujourd'hui, il y a une volonté, quand on a vu au départ Jean-Frédéric Poisson qui devait participer à un meeting avec Robert Ménard, Philippe de Villiers, finalement, il n'ira pas, ce qu'on lui a demandé, au sein pour les Républicains. Vous pensez qu'il peut y avoir une tentation encore plus grande aujourd'hui de cette alliance en France,
oui,
de
certains? Oui, après, il faut savoir ce qu'on définit par cette alliance. Vous voyez même l'évolution du Front National. Ce qu'on voit ailleurs en Europe, c'est des droites souverainistes, extrême droite, on a à peu près toute la panoplie possible. Par contre, on a vu cette panoplie se développer très fortement au cours des 2, 3, 4 dernières années. On va peut-être le voir encore, on a quand même des élections au début décembre en Hongrie, en Autriche, la présidentielle autrichienne, où il y a quand même un risque très important d'avoir un président d'extrême droite en Autriche. Donc vous voyez bien que le sujet n'est pas uniquement français. Il y a évidemment le thème du Brexit qui pose beaucoup de questions et qui fissure l'Union européenne et qui fissure le sentiment européen. Et tout ça peut se retrouver effectivement dans une partie, je dirais, de la droite, où il y a un sentiment souverainiste, etc.
Oui, enfin, ajouter une précision, c'est qu'à mon sens, il y a une petite exception en France, c'est qu'on a également une gauche de la gauche très très proche du FN, en dehors des questions d'immigration, mais sur les programmes économiques, très très proche quand même.
Alors ça, c'est
le programme de Mélenchon, c'est quasiment le même que celui de Marine Le Pen.
Celui qui venait.
Ouais, non, je suis pas d'accord.
Le plan économique, c'est le même.
Sur le plan économique, Marine Le Pen a gauchisé énormément son discours.
Oui, elle a gauchisé énormément son discours. Mais sur les histoires sur le rapprochement de la droite, c'est vrai qu'on sent qu'il y avait un sentiment minoritaire qui était la fusion entre la droite et l'extrême droite, et on voit que les personnes qui professent cela sont devenues les prophètes les plus écoutés. Donc c'est ça qui est en train de se passer, c'est une espèce de révolution par les idées.
Parce que c'est pas nouveau, on se souvient de certains, même Charles Pasqua à un moment, qui avait dit pourquoi pas,
mais ça sature le débat public, donc évidemment la question se pose.
Ron Ranco, juste une chose, on parle du Nini, il y a aussi le Front Républicain, à votre avis, toutes ces stratégies, est-ce qu'elles peuvent être efficaces finalement?
Moi, j'ai juste une chose qui va donner l'impression d'être une provocation, mais visiblement, mais je suis très sérieux, visiblement l'union de la droite commence avec Emmanuel Macron qui va visiter Monsieur de Villiers, donc à partir de là on a quand même une reconfiguration intéressante, on a un ministre qui est théoriquement de gauche de gouvernement et qui rend visite à quelqu'un qui est franchement d'une droite souverainiste d'extrême droite même, avec des propos qui sont pour le moins repoussants à de nombreux niveaux, et personne ne s'indigne de ce fait, donc on a quand même une reconfiguration qui va au-delà des clivages gauche-droite et droite-extrême-droite, et il y en a visiblement, il y en a qui sont prêts à aller très très loin pour repêcher des voix, et là ça concerne y compris des candidats d'élite comme Emmanuel Macron. Et sur la question des stratégies,
rapidement, je t'en prie, mais rapidement.
En deux mots, moi j'ai jamais cru encore une fois, j'en reviens à cette question de la soumission aux idées et aux problématiques imposées par le FN qui définit tout en fait. À partir de là, les stratégies ne peuvent qu'avoir un temps de retard en fait sur la question.
Allez, la suite des informés de France Info, on parlera de revenus universels et puis on partira aux États-Unis où il se passe des choses ce soir. Voilà le programme à venir dans les informés de France Info.
Bonjour, c'est Laurent Mariotte. Je vous donne rendez-vous tous les samedis sur France Info dès 9h25 pour À Toute Saveur. Ce samedi, je vous emmène récolter les premières noix du Périgord. Huile, gâteau, noisade. Vous entendrez tout ce qu'on peut faire avec. À Toute Saveur, c'est ce samedi sur France Info à 9h25, 12h25 et 19h25.
Dimanche 30 octobre à 20h.
Le chœur de Radio France, dirigé par Sophie Janin, chante avec ferveur la petite messe solennelle de Rossini dans une version rare avec harmonium et piano.
Le 30 octobre, la petite messe solennelle, l'ultime chef-d'œuvre de Rossini dans l'auditorium de la Maison de la Radio.
Sublime.
Réservation 01 56 40 15 16 et maisondelaradio.fr.
France Info Météo avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques qui propose aux patients et aux professionnels de santé la plus grande armoire à pharmacie du monde.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
La situation évolue peu et la grisaille est encore fréquente demain matin, de la Normandie et des Hauts-de-France, jusqu'en Alsace, Bourgogne et au Lyonnais, en passant par le bassin parisien. Ces nuages bas vont se morceler et les belles éclaircies vont s'affirmer l'après-midi, hormis des côtes normandes aux frontières belges, entre les Ardennes et le plateau lorrain, et plus localement entre Saône et Rhône, où le temps restera nuageux. Dans la vallée de la Garonne et du centre-val de Loire jusqu'en Bretagne, le début de journée sera aussi un peu gris, mais le soleil va balayer ses brouillards et nuages bas et l'après-midi se passera sous un beau ciel bleu. Partout ailleurs, la journée sera très ensoleillée du matin jusqu'au soir. Côté température, les minimales descendront entre 1 et 13 degrés au lever du jour et au meilleur de la journée, les maximales afficheront 13 à 25 degrés du nord-est au sud-ouest.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Les pharmaciens vont donc être autorisés à vacciner leurs patients contre la grippe. La mesure a été votée par l'Assemblée hier à titre expérimental et pour 3 ans. Objectif, simplifier le processus de vaccination qui aujourd'hui est un peu fastidieux. Le médecin fait l'ordonnance, le pharmacien délivre le vaccin, puis il faut retourner chez son généraliste pour la piqûre. Quand la mesure entrera en vigueur, les pharmaciens pourront donc eux-mêmes vacciner. C'est un changement plutôt bien accueilli dans les officines, comme le montre ce reportage pour France Info à Toulouse d'Alain Gastal.
Cette pharmacienne du centre-ville de Toulouse a l'habitude de conseiller en cette saison notamment aux personnes âgées de se faire vacciner. Elle délivre les vaccins sur ordonnance des médecins. Elle est donc prête à vacciner elle-même les patients dans l'arrière-boutique, sous certaines conditions cependant.
Oui, je vais le faire et c'est plutôt une bonne idée pour dégager les salles d'attente de consultation des médecins. La réglementation dans une pharmacie fait qu'il y a un endroit spécifique pour s'occuper des soins, prise de mesures, etc. Donc il y aura sans doute cet espace qui sera dédié à ça. J'imagine qu'on va être formé. Ça nécessite quand même une formation.
Et oui, beaucoup de pharmaciens n'ont pas l'habitude, notamment de faire des piqûres, mais il n'empêche, du côté des patients, on a confiance. Paul, qui approche des 80 ans, vient justement de se faire vacciner par son médecin.
J'ai fait déjà, tous les ans. Il le faut, je pense, oui. Quand on a un certain âge. Moi, j'ai mon médecin qui me vaccine dès que je viens avec mon produit. Je peux me faire vacciner par mon pharmacien sans histoire. C'est une simple injection, c'est rien du tout. Hein.
Et l'an prochain, Paul pourra donc s'épargner un aller-retour chez son médecin, ce qui devrait aussi faire quelques économies à l'assurance maladie. Il pourra, s'il préfère, s'éviter un aller-retour à la pharmacie, puisque les médecins seront autorisés à stocker les vaccins. Toulouse, Alain Gastal, France Info.
Alain Gastal à Toulouse. Pas de rebond spectaculaire, mais un frémissement. L'économie française est repartie de l'avant. Troisième trimestre, notamment dans le secteur des services. D'après une première estimation de l'INSEE, le PIB en France a progressé de 0,2% entre juillet et septembre. 180 postes supprimés dans les 3 ans à venir chez Mecachrome dans le Cher, croit savoir Force Ouvrière. Le constructeur va délocaliser une partie de sa production vers le Portugal, où la main-d'œuvre est meilleur marché. Mecachrome qui fabrique des moteurs pour la Formule 1 et le secteur aéronautique. Les postes supprimés sont pour les 2/3 des départs en retraite et pour le reste des CDD et contrats d'intérim non renouvelés. Les principaux groupes rebelles syriens ont lancé une offensive majeure à Alep. Il s'agit de briser le siège imposé par le régime. Au moins 15 civils ont été tués. L'armée russe demande, elle, à Vladimir Poutine de reprendre les frappes aériennes après une pause de 10 jours. Et puis en Irak, les djihadistes de l'État islamique ont enlevé plusieurs dizaines de milliers de personnes autour de Mossoul, qu'ils utilisent comme bouclier humain face à l'avancée de l'armée irakienne. Selon l'ONU, au moins 232 personnes ont été massacrées par le groupe djihadiste cette semaine près de son fief de Mossoul. La France condamne ces exactions.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés et sur le canal 27 de la TNT. Alors, je sais que nous allons décevoir beaucoup de monde, mais nous ne débattrons pas ce soir du passage à l'heure d'hiver, hein, voilà, puisque dimanche à 3h du matin, il sera 2h. Alors pourquoi prendre 3h du matin comme repère? Je n'en sais rien, voilà une question. 4h du matin, est-ce l'identité heureuse? Ça, nous ne le saurons pas, je pense qu'on peut aller très loin dans ce débat, mais eux, en tout cas, ils sont les derniers invités des informés de France Info à l'heure d'été 2016. Voilà comment mettre un petit coup de morale en berne, hein, des informés de France Info ce soir autour de la table. Donc nous trouvons Swazik Kemener du journal Marianne, également Eric Scholl de Courrier International, Mathieu Alterman de la revue Schnock et Juan Branco, chercheur en droit international. Dans 11 jours, on connaîtra le nouveau nom du nouveau locataire de la Maison Blanche. Donald Trump et Hillary Clinton accélèrent dans cette dernière ligne droite entre soutien de poids côté démocrate et provocation sur le fait de reconnaître ou non le vainqueur côté républicain. Cette élection marquera l'histoire de ce pays par la personnalité de ces deux candidats pas vraiment aimés. On voit ça à 20h45, car avant on va parler de nouvelles lubies de personnel politique français, à savoir le revenu universel. Alors c'est une vieille idée qui ressurgit actuellement dans cette pré-campagne présidentielle. Les idées, il faut bien le dire, ne sont pas forcément légion, donc c'est intéressant quand même d'en parler. L'idée, en fait, du revenu universel, c'est de verser une allocation à chaque citoyen sans condition. Cette somme pourrait être cumulée avec un salaire qui servirait de base de vie en cas de chômage. En revanche, le financement d'une telle mesure impliquerait de supprimer tout ou partie des allocations actuelles. Pour ses défenseurs, c'est une manière de lutter contre la pauvreté. Pour ses détracteurs, c'est la porte ouverte à l'oisivité et au cocktail à boire dans des jacuzzi. Manuel Valls approuve cette idée. Il en a encore parlé hier à Bordeaux, puisque la Gironde va expérimenter un revenu universel pendant plusieurs mois. Le revenu universel est d'ailleurs actuellement testé en Finlande. C'est une volonté partagée par tous les partis. Annika Saarikko, elle est vice-présidente du parti centriste finlandais.
On a été l'un des meilleurs pays au monde dans beaucoup de domaines. Mais c'est fini, car notre situation économique empire. On doit trouver de nouveaux moyens pour aider la population. Nous ne voulons pas faire de différence entre les gens. Pourquoi certains sont pauvres? On veut donner la même somme d'argent pour tout le monde.
Voilà, Annika Saarikko, alors on ne la connaît pas très bien, mais elle est vice-présidente du parti centriste finlandais. Eric Scholl, pourquoi cette idée, d'un coup, revient?
Ouais, ça fait quelques mois qu'elle court un peu partout, pas seulement en France, dans la plupart des pays, en Finlande. Alors en Finlande, elle va être testée. Et là, il y a tout un débat sur savoir comment elle va être testée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qu'elle expliquait cette Finlandaise dont j'ai déjà oublié le nom.
Annika Saarikko.
Voilà, elle expliquait parfaitement que il y a une crise économique importante en fait en Finlande depuis quelques années et là ils sont dans une situation où il faut trouver des nouveaux moyens et cette idée arrive à point nommé. Alors elle va être testée à partir normalement de l'année prochaine. Elle va concerner au départ uniquement à peu près 2000 personnes. Donc on va pas dire c'est pas encore étendu à l'ensemble de la population, et tous les tests aujourd'hui, on a quand même pas beaucoup, si vous voulez, de retour sur expérience de cette idée. Elle a déjà été testée dans plusieurs endroits dans le monde, mais toujours sur les petites échelles. En Alaska.
Et donc là-bas, alors c'est toujours l'Alaska.
Au Canada, ils ont pu puiser dans les revenus du gaz, du pétrole pour financer cette idée. Elle a été testée au Canada dans les années 70. Pendant 5 ans, simplement, il y a une alternance politique, et on n'a jamais su si ça avait vraiment fonctionné ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que Justin Trudeau a envie de remettre cette idée à nouveau en place.
Ouais, Mathieu Alterman.
Oui, en fait, la chose qui se cache derrière ça, c'est que les politiques savent aujourd'hui que l'avenir va pas être rose, parce que grâce ou à cause de progrès comme l'intelligence artificielle, tout le monde n'aura pas un travail plus tard, tout simplement. Ça cache ça, en fait.
Exactement, c'est ça. C'est ce qu'a en fait reconnu Manuel Valls, en fait, un peu.
Évidemment,
c'est la reconnaissance de la précarité, un petit peu.
La précarité, bah oui, va être de plus en plus répandue.
Peut-être la fin du salariat, oui, c'est ça.
Oui, c'est la fin du salariat, c'est la fin, de toute façon. Bon. Le souci, c'est que Manuel Valls ne parle pas du tout de ce revenu de la même manière. Lui, il dit on va enlever les allocations et puis on va faire un pack avec toutes les allocations dans un sac et on va être la même chose. Alors que c'est pas ça du tout. À la base, c'est donner un revenu à vie à tout le monde. Dès la naissance, et on le finance en supprimant les allocations chômage, en supprimant même peut-être, je sais pas, les retraites, parce qu'il faut le financer à un moment. Ce qui est amusant, c'est que ce projet était longtemps défendu par un homme très à droite en France, qui n'est plus aujourd'hui, qui était Maurice Druon. Donc c'est drôle, c'était son grand truc, il faisait des conférences là-dessus. Et moi je trouve que c'est une bonne idée. Simplement ce que dit Manuel Valls, enfin c'est n'importe quoi là, c'est vraiment c'est le Canada Drive du truc quoi. Ça a plus rien à voir.
Alors Maurice Druon, juste, c'est l'auteur des Rois maudits, voilà, c'est pour ça.
Oui, académicien,
parce qu'il a fait d'autres choses.
Oui, et puis l'auteur du Chant des Partisans.
Exactement, bien, bravo. Justement, sur l'équipe, c'est étonnant, Manuel Valls. Alors là, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, on sait que demain dans Le Monde, il va frapper sur François Hollande. Là, alors c'est quoi? C'est des idées finalement qu'il lance comme ça, éventuellement? Ça pourrait être un axe
Il a besoin de marqueurs, Manuel Valls. Et donc, c'est nouveau, c'est tout beau, tout le monde en parle, donc c'est l'occasion de s'en emparer. Ça fait déjà.
C'est vrai que tout le monde se positionne, on interroge beaucoup les candidats en ce moment.
Oui, c'est vrai, aussi bien à droite qu'à gauche. D'ailleurs, Nathalie Kosciusko-Morizet le défend pour la droite, Frédéric Lefebvre qui n'a pas pu être candidat, mais il le défendait aussi pour la droite. Enfin, tout le monde parle du revenu universel, mais vous avez raison de souligner qu'il y a deux conceptions très différentes. C'est-à-dire qu'il y en a une socialiste, hein, c'est-à-dire voilà, on partage et chacun aura un revenu qui travaille ou qui ne travaille pas, et puis ensuite on réajustera via les impôts. Et puis il y a aussi la deuxième conception qui est celle de Manuel Valls, parce que ce qui est drôle, c'est qu'il présente ça comme un marqueur de gauche, mais lui, effectivement, c'est on met tout ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus l'APL, il n'y aura plus le RSA, c'est qu'on aura un seul revenu de base pour les personnes en grande précarité. Mmh. Et donc, il explique effectivement que finalement, ça permet aux entrepreneurs d'essayer, ben pourquoi pas, puisque de toute façon, il y aura un revenu de base. Donc, effectivement, c'est la précarité pour tous.
C'est ça, oui, on a l'impression que cette précarité aujourd'hui, alors, ils en prennent conscience, mais en même temps, elle est là, enfin.
Si ça permet à certaines personnes d'éviter d'avoir toutes les formalités administratives qu'il faut faire pour avoir le RSA, la CAF, etc., et on sait à quel point ça peut être violent quand on est justement en difficulté et qu'on n'a pas forcément une connaissance du système. D'accord, après, c'est ce qui a été dit, c'est que le RSA, ça peut être un revenu, le revenu universel peut être un revenu qui peut être à 500 euros, ça sera plutôt l'idée de la droite, qui serait une sorte de remplacement du RSA qui permettrait de supprimer un certain nombre.
Et Benoît Hamon, lui, dit 1000 euros.
Et voilà, et ça peut aller jusqu'à 1000 euros, et ça change tout de la vision de la société, justement. C'est-à-dire qu'on est sur la mesure en soi est technique, elle est neutre politiquement, c'est après ce qu'on en fait qui va permettre de l'orienter dans un sens ou dans l'autre.
C'est ça, on va continuer à en parler dans un instant, mais l'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
La campagne d'Hillary Clinton rattrapée par l'affaire des emails. À 10 jours de l'élection présidentielle américaine, le FBI rouvre le dossier. L'ancienne chef de la diplomatie américaine est soupçonnée d'avoir utilisé son adresse mail personnelle pour avoir envoyé des informations classifiées lorsqu'elle était en poste. L'enquête avait été classée sans suite en juillet. Son rival républicain réagit. Ce soir, Donald Trump considère que le FBI peut ainsi corriger une terrible erreur. Une légère reprise à défaut d'un rebond spectaculaire. L'économie française repart de l'avant au troisième trimestre 2016, notamment dans le secteur des services. Selon une estimation publiée par l'INSEE, le PIB progresse de 0,2% entre juillet et septembre. Réaction de François Hollande, la France est sur un sentier de croissance, même si elle est encore trop faible. Les soldats irakiens n'ont pas encore mis un pied à Mossoul, que déjà les Nations Unies dressent un premier bilan. Selon le Haut Commissariat aux droits de l'homme, Daesh a massacré cette semaine plus de 250 personnes, des civils et des anciens soldats qui refusaient d'obéir aux ordres des djihadistes dans la deuxième ville d'Irak. L'ONU précise par ailleurs que l'organisation État islamique a enlevé plusieurs dizaines de milliers de civils pour s'en servir de boucliers humains à l'intérieur de la ville. La coalition annonce ce soir que les forces irakiennes vont faire une pause avant d'entrer dans Mossoul. Qualifié hier pour les Masters de Londres, forfait aujourd'hui pour le Masters 1000 de Paris-Bercy. Le tennisman français Gaël Monfils doit jeter l'éponge en raison d'une blessure aux côtes. Sur France Info, Guy Forget, directeur du tournoi parisien, précise que le joueur a choisi de se préserver pour Londres.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons donc de cette mesure très appréciée par les politiques en ce moment, politiques français, c'est le revenu universel. Je crois, Richaud, vous vouliez rajouter quelque chose quand j'ai dit 1000 euros pour Benoît Hamon.
Oui, parce que ce débat, il a eu lieu en Finlande sur le montant. Les Finlandais, au départ, ils étaient plutôt sur 800 euros et finalement, ils s'orientent sur 560 euros parce qu'évidemment, de toute façon, ça coûte très cher. Mmh. Alors, normalement, après, il faut trouver les sources de financement.
Normalement, ça ne devrait pas coûter plus cher, justement, que les allocations.
Normalement, oui. Vous savez comment c'est. Oui, c'est qu'après, il faut quand même trouver. Si on le mettait, je crois, l'idée de la Fondation Jean Jaurès, ça serait de le mettre à 750 euros et ça coûte, je vais vous dire une bêtise, mais ça coûte de l'ordre de 20%, 25% du PIB. C'est énorme. C'est énorme.
800 milliards par an, je crois.
Alors, la chose intéressante, quand même, c'est donc c'est une nouvelle idée. Voilà, parce que, enfin, une vieille qui devient une nouvelle idée.
C'est une idée gadget, parce qu'elle n'est pas définie. Voilà, si vous voulez, chacun, il met ce qu'il veut. C'est pour ça qu'elle s'appelait beaucoup. Manuel Valls s'en empare, mais il met ce qu'il veut dedans.
Ce qui est drôle,
c'est une idée libérale aussi. Les libéraux sont ça tombe très bien. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, ça peut supprimer toute une partie de bureaucratie. Alors, les libéraux, ils trouvent ça génial. Mmh, alors. Puis c'est une sorte d'incitation à créer des auto-entrepreneurs de l'activité. Chacun, il y trouve son compte.
Mathieu Altermann. Non, mais ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que tout le monde y trouve son compte, tout le monde est content. Et la personne qui rebondit le plus mal sur l'histoire, c'est Manuel Valls, quoi. C'est quand même le chef du gouvernement qui, alors lui, patouche complètement, dit qu'il va. C'est quand même fou, quoi. Il y a quand même une malédiction jusqu'au bout dans ce gouvernement. Un truc où il est impossible de se planter. Bah non, il arrive pas.
Alors, celui qui m'énerve, c'est pour ça que je reprends alors, cette ancienne nouvelle idée, on va dire. On n'a pas l'impression que des nouvelles idées, c'est la chose en ce moment vraiment que l'on voit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les partis politiques, comme disait Juan Branco tout à l'heure, sont un peu en décrépitude et n'arrivent plus à produire d'idées.
Oui, mais c'est vrai qu'on a un gros problème de production d'idées. D'ailleurs, ça s'est fait par des fondations, c'est sorti des partis, on en avait déjà parlé aussi une fois. Alors, moi, mercredi matin, je me suis dit, je vais aller à la conférence d'Emmanuel Macron. Ouais. Parce que, il y a sûrement des idées, il se passe quelque chose.
Où il nommait ses ambassadeurs,
exactement. Mais je me suis dit, on va quand même avoir un petit bout d'idées, donc je me suis installée. Et puis, très vite, il a laissé la place au nouveau secrétaire général, Richard Ferrand, le député socialiste du Finistère. Et il commence à parler, on l'interroge sur les idées, puisqu'il y avait plusieurs questions. Il y a même un journaliste italien qui dit, bon, répondez-nous, vous êtes candidat ou pas, donc c'était très drôle. Et donc, on l'interroge sur les idées, et il commence par, alors il faudrait rétablir la police de proximité. Voilà.
Ah, d'accord, voilà.
Une nouvelle idée
pour nous. Juan Branco, quand vous entendez ça, c'est vrai pour vous, aujourd'hui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça veut dire les partis. Avant, on avait l'impression qu'il y avait des programmes, qu'on pouvait réfléchir autour. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression que ce ne sont que des écuries présidentielles.
Le problème, c'est que cet effet de rafraîchissement dont vous parliez, Eric Scholl, sur la question de la primaire, c'est quand même un effet qui est lié à la nouveauté. C'est la première fois à droite que ça arrive. Donc, de la même façon qu'il y a eu un engouement très fort à gauche il y a 5 ans à ce sujet, on a cet engouement.
Pour vous, il y a des nouvelles idées dans cette primaire?
Non, et surtout, sauf qu'il n'y a pas de nouvelles idées, il n'y a pas de nouvelles personnalités non plus. Parce que, en fait, les critères d'accession à ces primaires, que ce soit à gauche ou à droite, font qu'il faut déjà être dans le système, il faut déjà avoir des relais dans le système. Et à partir de là, en fait, on donne une illusion de participation aux citoyens, alors qu'en fait, on fait que dissoudre les partis politiques, parce que du coup, ça sert évidemment plus à rien d'être militant, dès le moment que vous pouvez choisir, en gros, la personne qui va définir les orientations du parti sans être militant, sans être adhérent, vous signez la mort de l'appareil politique, et en même temps, de l'autre côté, vous donnez pas un réel accès à un renouvellement de la classe politique. Et là, on est dans cet entre-deux complètement aberrant, qui a provoqué la catastrophe du quinquennat, qui a provoqué l'élection de François Hollande, et qui, à droite, ne va pas forcément changer quoi que ce soit.
Alors, justement, un point de vue renouvellement politique, en ce moment, il y a beaucoup d'élections dans le monde, et il y en a une qui nous intéresse particulièrement en ce moment, c'est bien sûr la campagne présidentielle américaine. Et ce qui est bien avec cette campagne présidentielle, c'est qu'elle aura été constante dans la violence et l'excès jusqu'au bout. Depuis janvier dernier, on a l'impression d'assister à un match de catch, et ce n'est pas hasard, d'ailleurs, si Hulk Hogan soutient Donald Trump, et oui, officiellement, quand même, c'est pas n'importe quoi. À 12 jours du scrutin, les sondages sont plutôt en faveur d'Hillary Clinton, mais un peu comme dans beaucoup de démocratie, cela ressemble à un vote par défaut. Clinton représente l'élite, le pouvoir des petits arrangements entre ses intérêts personnels et ceux de son pays. On le voit encore ce soir avec l'affaire des emails. Côté républicain, un candidat seul contre tous qui a révélé une colère, mais avec un teint trop orangé, des insultes envers les Mexicains, les musulmans, les soldats tombés en Irak et surtout les femmes. Affronter Hillary Clinton, un cauchemar pour Trump. Et c'est là-dessus que la candidate démocrate appuie avec un soutien de poing hier soir en Caroline du Nord, Michelle Obama.
Elle a plus d'expérience, de connaissance de la fonction présidentielle que n'importe quel autre candidat de notre temps. Oui, plus que Barack, plus que Bill. Et oui, il se trouve qu'elle est une femme.
Voilà, Michelle Obama hier en soutien à Hillary Clinton. Eric Scholl, c'est important ce soutien de Michelle Obama à Hillary Clinton?
On se demande même pourquoi Michelle Obama ne s'est pas présentée. Ouais. C'est finalement, elle a une très grande popularité, elle est même plus populaire qu'Hillary Clinton. Et peut-être d'ailleurs qu'un jour, elle reviendra à la politique, c'est pas sûr, parce que je crois qu'elle n'aime pas beaucoup la politique. Oui, c'est très important.
On dit qu'elle attire plus de jeunes d'ailleurs, même qu'Hillary Clinton.
Évidemment, Hillary Clinton est mal aimée. C'est aussi évidemment le cas de Donald Trump, mais elle est mal aimée exactement pour les raisons que vous avez précisées tout à l'heure. Elle représente
l'élite,
une sorte de la dynastie aussi Clinton. Représente beaucoup de choses. Elle représente aussi, d'une certaine façon, les mensonges, les secrets. Plus que le mensonge, c'est plutôt les secrets, l'opacité sur beaucoup d'affaires. Et donc, les Américains ont une relation compliquée avec Hillary Clinton. Maintenant, quand même, les choses se sont un peu dessillées. On va avoir les votes dans 10 jours, mais on a quand même vu depuis maintenant 3 semaines, depuis les débats, elle a quand même montré au cours des 3 débats qui se sont passés son expérience. C'est exactement ce que dit Michelle Obama. Elle a l'expérience, alors, elle a une supériorité dans la capacité
on l'a vu développer ses idées, contrairement à Donald Trump qui parle en slogan davantage. Alors, Juan Branco, je disais en début de l'émission, vous avez fait partie des défenseurs de Julian Assange, donc de Wikileaks. Et alors, Wikileaks, il aime bien embêter Hillary Clinton, notamment. Pourquoi vous, finalement, Wikileaks, comme ça, s'acharne sur Hillary Clinton et cette candidate particulièrement? On accuse d'ailleurs Julian Assange de faire campagne pour Donald Trump.
Oui, alors ça, c'est Le Monde qui a une sorte de subjectivité particulière par rapport à Wikileaks depuis quelques semaines. Mais de façon générale, Wikileaks, il faut d'abord replacer, c'est une organisation de presse qui publie, en gros, des documents et qui ne publie que des documents et qu'il trouve à droite, à gauche, on ne sait pas comment, la plupart du temps anonymement, par envoi sécurisé. Et il se trouve qu'il y a des personnes peut-être intéressées qui ont commencé à envoyer beaucoup de documents secrets sur la campagne d'Hillary Clinton. Et là, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, avait un choix. Julian Assange, qui est enfermé depuis 4 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres, du fait de la publication de nombreux télégrammes diplomatiques américains. Donc c'est 100 mètres carrés, hein. C'est pas une ambassade comme les ambassades françaises qui sont très agréables.
Et on lui a coupé Internet d'ailleurs.
Justement pour essayer de l'empêcher de publier ses documents. Il avait un choix important qui était soit je m'assois sur ces documents parce qu'en effet, j'ai pas des documents sur le camp inverse, sur Trump, et ça risque peut-être de déséquilibrer d'une façon ou d'une autre, et par ailleurs ça risque de nuire à ma situation personnelle. Soit à un moment, je me dis, les Américains ne peuvent pas voter sans savoir pour qui ils votent. Et ce qu'a fait Wikileaks, je tiens quand même à le dire, c'est ne faire que révéler des documents de l'authenticité prouvée, qui prouvent quand même des nombreux cas qui, à minima, relèvent de l'affairisme, potentiellement de corruption dans le camp Clinton, concernant directement Hillary Clinton et Bill Clinton. Et en retour, ils se sont pris une offensive d'une violence terrible parce que, soi-disant, ils feraient de ce fait la campagne de Trump.
Mathieu Alterman.
Oui, enfin, moi, je pourrais vous rétorquer que, imaginons qu'on ait Marine Le Pen au deuxième tour des élections face à, je sais pas, à Alain Juppé, et que Wikileaks sort plein de saloperies horribles sur Alain Juppé.
Mais vrai, c'est important.
Je vais vous dire, je préfère qu'elles sortent pas, même si elles sont vraies.
Donc vous préférez ne pas savoir pour qui vous votez.
Ne pas savoir, plutôt que faire élire Marine Le Pen ou Donald Trump dans le cas présent.
Mais donc, en gros, vous faites élire Marine Le Pen 5 ans plus tard.
Pourquoi?
C'est ça la conséquence. Parce que vous permettez au système de se reproduire. C'est-à-dire vous permettez à la corruption de se reproduire. Disons que Alain Juppé serait corrompu, ce qu'il n'est pas, j'imagine, je pense. Et qu'il est corrompu et qu'on le sait. Et qu'il y a une organisation de presse qui le sait. Si elle retient ces éléments,
vous imaginez la toute puissance qui soit quelqu'un qui a des idées républicaines et qui soit corrompu plutôt qu'un facho honnête. Je suis désolé.
Donc il ne faut pas laisser se présenter ce facho dans ce cas-là.
On va y revenir dans un instant, puisque l'info à 20h50, c'est Pierrick Bonneau.
Manuel Valls sort de sa réserve ce soir. Il le fait dans le journal Le Monde, daté de demain. Le Premier ministre évoque sa colère personnelle et une honte ressentie, selon lui, par les militants socialistes à la lecture du livre Confession de François Hollande. Manuel Valls ajoute cette phrase : « J'ai le sentiment d'avoir une véritable responsabilité pour qu'on sorte le mieux possible de cette période très périlleuse. » Voilà, chacun interprétera comme il l'entend. Un père de famille en garde à vue ce soir à Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, après la mort de son bébé de 2 mois. La mère a appelé la gendarmerie la nuit dernière après avoir découvert son enfant inanimé. Selon le parquet, le bébé a été victime de violence. Une autopsie précisera si le père a frappé son enfant ou si le nourrisson a été victime du syndrome du bébé secoué. Le Parlement de Wallonie approuve le projet d'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. La région belge francophone enterre ainsi définitivement son opposition au CETA qui menaçait de faire capoter les négociations. Une comparaison choc qui laisse imaginer le taux de criminalité à Brasilia. Les homicides au Brésil ont fait plus de morts entre 2011 et 2015 que la guerre en Syrie. 278 000 morts en 4 ans selon une ONG basée à Brasilia, alors que les affrontements en Syrie ont fait 20 000 morts de moins pendant la même période. Le taux d'homicide au Brésil a atteint 28,6 pour 100 000 habitants en 2015, près de 3 fois le seuil de violence chronique fixé par les Nations Unies.
Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore pour quelques minutes avec ce soir Swazi Kemener de Marianne, Éric Scholl de Courrier International, Mathieu Alterman de la revue Schnock et le chercheur en droit international, défenseur de Julian Assange, Juan Branco. Alors on était en train de parler justement de ces révélations de Wikileaks dans la campagne présidentielle américaine. Juste une chose avant de vous interroger, Swazi Kemener. Éric Scholl, vous qui suivez pour Courrier International, est-ce que ces révélations de Wikileaks ont eu un impact ?
C'est-à-dire qu'elles viennent dans un ensemble. Il n'y a pas que ces révélations. Il y a aussi des accusations du côté russe, de la façon dont la campagne elle-même est perturbée, la volonté sans doute qui n'est pas encore prouvée, mais comment les Russes essayent de s'infiltrer. On l'a vu de façon dans le cœur informatique du Parti démocrate, de la façon dont aujourd'hui aussi Donald Trump, les relations entre Trump et bien Poutine, sûr. La
ça
façon
a été dans les débats même, hein, par
mais bien sûr, la façon dont Trump lui-même explique partout que l'élection va être truquée. Et au fond, c'est cette une tentative, au fond, d'essayer de dire cette élection, elle est sans doute, parce qu'il anticipe déjà sa défaite, mais de dire qu'elle est perdue. Ce qui est quand même mettre, c'est une défiance vis-à-vis de la démocratie américaine. C'est ça qui est assez grave. Et moi, j'assimile ce que fait Wikileaks, je mets ça dans cet ensemble-là. Parce qu'effectivement, on n'a pas toute la lumière sur ces révélations et sur la volonté assez biaisée de parler que d'une partie.
Juste une chose, soyez qui m'énerve, il y a quand même une chose qui est étonnante avec Donald Trump, malgré ses débordements, malgré ses outrages. Ça fait un an, quand même, qu'on ne parle que de lui, presque, quand on évoque la campagne américaine. Il a été tout seul face au Parti républicain. On a l'impression qu'il a révélé quelque chose du fin fond des États-Unis qui était quand même prégnant, quoi. C'est ça qui est terrible, en fait.
Oui, vous avez raison. Moi, c'est ce qui me frappe. C'est-à-dire qu'on avait, une jolie façade et on avait tous envie d'y croire. C'est-à-dire, l'Amérique qui avait élu et réélu Obama, Yes We Can, il se passait quelque chose aux États-Unis. On a l'impression qu'une nouvelle page s'ouvrait. Et puis, on se rend compte qu'en fait, derrière cette très belle façade, c'était du façadisme. Les choses se sont effondrées. On avait le premier président noir américain et puis on voit que l'injustice raciale est à son comble. On voit ce qui s'est passé à Bâton Rouge. Les injustices sociales sont très fortes. Je vous conseille le dossier de Marianne de cette semaine, j'en parle déjà. Mais sur justement la paupérisation des classes moyennes, c'est vraiment prégnant et important. Et donc on voit que tout s'est fissuré et qu'en fait finalement ce qui se passe au niveau politique n'est que le reflet, même si évidemment Donald Trump attise ça par ses discours de haine, notamment envers les étrangers, mais le reflet en fait d'une autre Amérique qu'on voyait pas. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est ce que disait un site américain qui expliquait que le récent débat entre Donald Trump et Hillary Clinton, c'était les 90 minutes les plus atroces de l'histoire politique moderne des États-Unis. Je voulais dire beaucoup de choses. Michael Terman.
Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses. Le bilan d'Obama n'est pas bon, faut le dire. Il n'est pas du tout aimé aux États-Unis. Et il y a surtout un ras-le-bol du politiquement correct aux États-Unis qui est vraiment partout. Hein. Politiquement correct, c'est vraiment. Il y a beaucoup de gens qui en ont marre. Ils sont prêts à soutenir, évidemment, Trump qui est outrancier, qui est épouvantable, parce qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Mais le truc, moi, qui me rend fou dans l'histoire, c'est que le Parti républicain avait un boulevard. Ils avaient un boulevard, ils étaient sûrs de gagner les élections, mais pas avec ce candidat, quoi.
Qu'en fait, ils ne l'ont pas choisi. En fait, il s'est imposé.
Oui, d'accord.
À eux,
qu'ils s'organisent un petit peu. Parce que c'est quand même incroyable. C'était une élection qui était imperdable pour les Républicains sur le papier au départ.
Juste une dernière chose, Juan Manco, Julian Assange a annoncé d'autres révélations concernant Hillary Clinton. Ce soir, donc, l'FBI s'intéresse à ces affaires d'emails où elle aurait confondu, elle se serait servie de ces emails quand elle était secrétaire d'État. Ça peut, à votre avis, jouer à la fin, finalement, aujourd'hui, contre Hillary Clinton?
Je pense que plus que WikiLeaks, la question de l'affaire des emails qui recommence, qui est quand même une enquête criminelle, donc qui peut avoir des implications pénales et menacer de prison Hillary Clinton, peut jouer un rôle qui, certes, à mon avis, sera pas définitif, mais qui va largement déstabiliser son mandat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une personne qui aurait pu faire l'objet de poursuites et qui devient présidente des États-Unis, il y a toute une question de la légitimité de son élection qui va être mise en cause par, évidemment, la droite, mais aussi par un certain nombre de médias qui ont été d'ailleurs virulents pendant cette campagne. Et ça nous fait penser à quelque chose en France, évidemment, avec la candidature de Nicolas Sarkozy.
Allez, les informés de France Info, bien sûr, on fera des spéciales, d'ailleurs, pour les élections américaines les 8 et 9 novembre prochains, notamment avec Courrier International. Ça va être l'heure de l'instant promo, d'ailleurs, dans les informés de France Info. Pour terminer, déjà, merci beaucoup à Ron Manco d'être passé ce soir aux informés de France Info. La une de Marianne Soisy-Kemener cette semaine.
Alors donc c'est Hillary Clinton et Donald Trump, ils symbolisent le mal-être américain avec aussi un autre article que je vous recommande, flic, prof, magistrat, militaire, l'État craque.
La une de Courrier International, Eric Scholl.
On s'intéresse beaucoup à l'éducation, comment est-ce que l'éducation, l'école peut encore fabriquer des citoyens et comment elle se débrouille pour en France et partout dans le monde.
Voilà, ça c'est la une de Courrier International, et je signale qu'à partir de mercredi prochain, il y a également un hors-série Courrier International, les libres penseurs de l'islam avec des textes notamment de Kamel Daoud, Salman Rushdie, Mustafa Akkol, donc à trouver donc mercredi, et Mathieu Alterman, Schnock,
Bah, la revue Schneuve, oui. Le dernier numéro Catherine Deneuve en cours, ouais. Toujours disponible dans toutes les librairies.
Et surtout, la compilation
Bleu-Blanc-Schnock, ouais. Puisque nous avons également une émission sur une radio concurrente.
Exactement.
Et il y a une double compile avec des morceaux collecteurs, certains jamais réédités. Vous allez pouvoir frimer
Jean Schultes même dessus. Donc,
oui,
voyez,
ça, c'est le seul tube qu'on a mis. Mais parce que vous êtes un mélomane.
Mais bien sûr, je ne décide pas.
Mais surtout, ce n'est pas présent sur les sites de streaming, donc il faut l'acheter.